Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la voile. On va essayer de décortiquer ensemble les forces qui animent un voilier, cet équilibre dynamique, toujours en mouvement. Et surtout, on va regarder comment les commandes, la barre, les voiles et même, on va le voir, le poids de l'équipage interagissent, parfois de manière assez surprenante d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de saisir comment un voilier avance sur l'eau, comment il glisse et comment on peut l'aider à le faire au mieux. Pour cette discussion, on s'appuie sur un document technique intitulé Série de podcasts, épisode 9. Il synthétise pas mal de notions sur cette dynamique et ce contrôle du voilier. Notre objectif aujourd'hui,
c'est d'aller un peu plus loin que les bases, hein, pour vraiment comprendre ce jeu complexe entre le vent, l'eau et puis les actions qu'on fait à bord.
comment un voilier concrètement y tient sa route? Comment il gère son inclinaison? Et comment l'équipage peut orchestrer tout ça pour que ça glisse bien, que ce soit efficace et même élégant, on pourrait dire. On cherche un peu l'intelligence cachée là dans la conduite d'un voilier. Et d'ailleurs, il y a un point qui ressort tout de suite de nos sources, l'importance, voire l'obsession de naviguer bateau plat. Apparemment, garder le voilier droit, le moins penché possible, ce serait une des clés pour aller vite et droit. Et puis il y a ces termes un peu énigmatiques, ardent et mou. Faudra qu'on éclaire ça. Alors pour commencer par le début, cet équilibre dynamique dont parle le document source. Qu'est-ce qu'on entend par là précisément? C'est pas juste l'équilibre quand on est à l'arrêt, j'imagine.
Non, exactement. L'équilibre dynamique, c'est vraiment le comportement du bateau en mouvement. Une fois qu'il a pris sa vitesse, il développe ses propres tendances, en quelque sorte. Sa tendance à aller tout droit, ou au contraire à vouloir tourner vers le vent, ou à s'en écarter. Ça comprend aussi sa stabilité sur le côté, la fameuse gîte, et puis comment tout ça réagit quand l'équipage intervient. C'est un équilibre constant, mais toujours en ajustement, quoi. Une sorte de danse avec les éléments. Et cette histoire de naviguer bateau plat, ce n'est pas du tout anecdotique. Pourquoi? Imaginez la coque comme une lame dans l'eau. Elle est dessinée pour être super efficace quand elle est droite ou avec très peu de gîte. Dès que le bateau penche trop, la partie immergée, sa forme change, elle n'est plus optimale. Du coup, elle crée plus de résistance, ce qu'on appelle la traînée. Et surtout, un bateau qui gîte de manière irrégulière, il demande tout le temps des corrections à la barre. Et chaque coup de barre, il faut bien voir que c'est un peu comme un coup de frein. Donc naviguer plat, autant que possible bien sûr, c'est chercher une trajectoire plus propre, moins de résistance et donc au final plus de vitesse.
Je vois. Moins de zigzags, moins de coups de frein et plus de glisse, quoi. Logique. Mais revenons sur ces termes, ardent et mou. Le document dit qu'un bateau peut avoir l'une ou l'autre tendance. Ça signifie quoi concrètement pour la personne qui tient la barre?
Alors oui, ce sont des tendances vraiment fondamentales. Ça décrit ce que ferait le bateau si on lâchait la barre. Juste un instant. Un bateau qu'on dit ardent, c'est celui qui a envie de remonter vers le vent. Il veut lofer. Son nez, son avant, il pivote naturellement pour se rapprocher de là d'où vient le vent. C'est souvent vu comme une sécurité d'ailleurs. Mais attention, s'il est trop ardent, on est obligé de forcer sur la barre pour garder le cap. C'est fatigant et puis ça freine le bateau, comme on disait. Et à l'inverse, un bateau mou, lui, il a tendance à s'écarter du vent, à abattre. Si on lâche tout, hop, il s'éloigne de l'axe du vent. Un bateau très mou, ça peut être délicat par petit vent, ou alors ça demande des actions constantes pour pas trop dévier de la route qu'on veut suivre.
Et ça vient d'où ces tendances? C'est la forme de la coque? Les voiles?
C'est lié à l'interaction entre les deux, en fait. Entre les voiles et la partie immergée de la coque, ce qu'on appelle les œuvres vives. Il faut imaginer deux points importants. Le point où s'applique la force globale du vent sur les voiles, on appelle ça le centre de poussée vélique, PV pour les intimes, et le point où la coque résiste à la dérive sur le côté, le centre de dérive. C'est un peu comme des centres de gravité, mais pour les forces de l'air et de l'eau. Alors, si la poussée du vent, PV, s'applique derrière ce centre de dérive, le bateau va pivoter vers le vent. Il est ardent. Si au contraire la poussée s'applique devant le centre de dérive, eh bien il va pivoter en s'écartant du vent. Il est mou. Idéalement, ce qu'on cherche souvent, c'est un tout petit déséquilibre ardent. Juste ce qu'il faut pour sentir une légère pression dans la barre, avoir un bateau réactif, mais sans que ça devienne une lutte, quoi.
C'est fascinant cette histoire de point d'application des forces. On comprend mieux d'où viennent ces tendances naturelles. Mais on voit souvent les voiliers penchés, la gîte, parfois même beaucoup. Intuitivement, je me dis que cette inclinaison doit forcément jouer un rôle là-dedans, non? Le document fait un lien, il me semble.
Ah oui, absolument.
La gîte a un impact direct et souvent majeur. Le document est très clair là-dessus. La gîte, elle augmente la tendance à lofer. On parle même de couple de lof créé par la gîte. Pourquoi ? Ben, quand le bateau s'incline, la forme de sa partie immergée change complètement. Elle devient asymétrique. Et cette nouvelle forme, elle ne glisse plus pareil dans l'eau. En plus, les voiles aussi sont inclinées, elles ne prennent plus le vent pareil, leur centre de poussée peut bouger. Tout ça mis ensemble, ça crée une force qui pousse l'avant du bateau vers le vent. On le sent très bien dans une rafale, le bateau gîte plus, et si on ne fait rien, paf, il part au lof, parfois assez brutalement. Et l'inverse est vrai aussi. Le document mentionne la contre-gîte. Ça, c'est quand l'équipage fait pencher volontairement le bateau au vent, donc à l'inverse de la gîte normale. C'est moins courant, on le fait surtout sur des petits bateaux ou pour des raisons tactiques précises. Et cette contre-gîte, eh bien, elle a l'effet inverse. Elle aide le bateau à abattre, à s'écarter du vent. C'est un outil pilotage assez fin pour jouer avec ses forces.
Incroyable de voir comment un simple changement d'angle peut autant influencer la direction. Donc, si je comprends bien, cet équilibre ardent-mou, ce n'est pas quelque chose de figé. Comment l'équipage, alors, peut activement jouer là-dessus pour ajuster le comportement du bateau ? Le rendre peut-être un peu moins ardent quand ça souffle fort, ou plus réactif par petit temps ? Le document donne quelques pistes, quelques leviers d'action ?
Oui, heureusement, on a plusieurs cartes en main pour affiner ça. On n'est pas juste condamné à subir la tendance naturelle du bateau. Le document met en avant plusieurs réglages importants. D'abord, on peut jouer sur la position du mât sur le bateau. En le déplaçant un peu vers l'avant ou vers l'arrière, si le bateau le permet bien sûr, on déplace toute la voilure et donc son centre de poussée. Ensuite, il y a la quête du mât. C'est son inclinaison vers l'avant ou l'arrière. Un mât penché en arrière, ça recule le centre de poussée, ça rend le bateau plus ardent. Penché en avant, c'est l'inverse, ça le rend plus mou. C'est un réglage assez fondamental. Évidemment, le réglage même des voiles, leur creux notamment, ça a une influence. Une voile très creuse peut avoir un centre de poussée un peu plus en arrière qu'une voile plate, donc ça peut augmenter la tendance ardente. Et enfin, un levier très très dynamique et qu'on utilise tout le temps, surtout en régate, la répartition du poids de l'équipage. Se déplacer vers l'avant, l'arrière, au vent, sous le vent, ça modifie pas seulement la gîte, mais aussi l'assiette longitudinale, comment le bateau flotte sur sa longueur. Et ça change subtilement la forme immergée et la position relative de ces fameux centres de poussée et de dérive. C'est un ajustement permanent pour optimiser la sensation à la barre et bien sûr la vitesse.
On voit bien la complexité, oui. Ajuster un truc en touche souvent d'autres. Ce qui nous amène assez naturellement à l'autre grand concept du document, les liaisons, les liens entre les commandes et le comportement du bateau. Le document fait une distinction entre liaisons directes et indirectes. Parlons d'abord des directs, si vous voulez bien, les effets attendus, en quelque sorte.
C'est ça, les liaisons directes, c'est l'effet principal, quasi immédiat, et celui qu'on recherche quand on agit sur une commande. C'est la base du pilotage, quoi. Le document en identifie trois principales. La plus évidente, c'est la barre, ou le safran, qui est derrière. Son rôle premier, sa liaison directe, c'est de contrôler la direction. On tourne la barre, le bateau tourne, lofer ou abattre. Simple, basique. Ensuite, les voiles. Leur réglage principal, je parle de la surface qu'on expose au vent, leur angle par rapport au vent avec les écoutes, ça a un impact direct sur la propulsion. Plus on borde l'écoute, enfin jusqu'à un certain point, plus on prend le vent, plus ça pousse. Si on choque, on relâche l'écoute, on diminue la puissance. C'est le moteur, en gros. Et la troisième liaison directe, ça concerne le poids de l'équipage. En se déplaçant sur le côté, l'équipage contrôle directement l'équilibre transversal, la gîte. C'est le fameux rappel. On se met au vent pour contrer la force du vent dans les voiles et pour essayer de garder le bateau le plus plat possible. C'est un contrôle direct de l'inclinaison.
D'accord. Barre, direction, voile, moteur, poids, équilibre latéral. C'est la base. Mais là où ça devient vraiment subtil, j'ai l'impression, c'est quand le document introduit les liaisons indirectes. Il suggère que chaque action a des effets secondaires, parfois inattendus, sur les autres aspects. C'est un peu comme si chaque commande envoyait des ondes dans tout le système.
C'est exactement ça. Si on regarde d'un peu plus près, on réalise que ces trois commandes, barre, voile, poids, elles ne fonctionnent pas en silos séparés. Chacune a des répercussions sur les domaines des autres. Ce sont ces liaisons indirectes, ces effets croisés, qui font toute la richesse et parfois la difficulté du pilotage fin. C'est là que l'expérience joue beaucoup. Le document nous aide à les identifier. Reprenons la barre. Rôle direct, direction. OK. Mais à chaque fois qu'on tourne le safran, on crée une résistance dans l'eau, un frein hydrodynamique. Donc, utiliser la barre a un effet indirect sur la propulsion. Trop de barres ou des mouvements brusques, et hop, on ralentit le bateau. Et en plus, en changeant de cap, par exemple si on loffe, on change l'angle du vent par rapport au voile. Ça augmente la pression sur le côté et donc ça augmente la gîte. La barre a donc aussi un effet indirect sur l'équilibre.
Ah oui, je vois le truc. Un coup de barre pour corriger la route peut en fait ralentir et faire pencher davantage. Intéressant. Et pour les voiles alors, leur rôle c'est la propulsion, mais quels sont leurs effets cachés?
Les voiles aussi, elles ont leur liaison indirecte. Leur réglage influence la direction. Par exemple, si on choque brusquement la grand voile, ça peut faire abattre le bateau, parce qu'on relâche la pression à l'arrière. Inversement, si on borde bien la grand voile ou le foc, ça peut aider à faire loffer. On augmente la pression et on peut décaler un peu le centre de poussée. De la même manière, quand on borde une voile, on augmente la force du vent dessus, donc on augmente la force qui fait giter le bateau. Le réglage des voiles a donc un impact indirect très net sur l'équilibre, sur la gîte. Un bon régleur y pense toujours à ces trois aspects en même temps. Propulsion, direction, équilibre.
C'est un vrai jeu d'équilibriste en fait. Et le poids de l'équipage alors? Au-delà de juste contrôler la gîte, comment il influence le reste?
Le poids de l'équipage a aussi des effets indirects assez marqués, notamment sur la direction. Le document source insiste bien là-dessus. Déplacer son poids vers l'arrière ou au vent, ça peut aider le bateau à abattre. Et à l'inverse, se mettre vers l'avant et ou sous le vent, ça peut favoriser le lof. Pourquoi? Ben, parce qu'on modifie l'assiette longitudinale, si le bateau pique du nez ou lève le nez. Et ça change la façon dont la coque interagit avec l'eau, notamment la position de ce fameux centre de dérive par rapport au centre de poussée des voiles. Le document donne même un exemple très parlant de cette liaison indirecte poids-direction. Certaines manœuvres, comme le virement de bord ou l'empannage, qu'on appelle en bascule, c'est souvent fait en dériveur léger. Dans ces techniques, l'équipage utilise un mouvement de son corps, coordonné et parfois assez ample, pour aider activement le bateau à tourner, en même temps que la barre, voire parfois pour moins utiliser la barre. C'est la preuve qu'on peut piloter aussi avec son poids. Ça montre bien à quel point maîtriser ces liaisons indirectes permet un pilotage plus fluide, plus économe en gestes de barre et au final plus performant.
C'est vraiment une toile d'interaction complexe si j'essaye de résumer un peu tout ça. Naviguer efficacement, ce n'est pas juste appliquer des recettes simples, une commande égale un effet. C'est comprendre que le voilier est un système dynamique où tout est lié. Maîtriser la barre, les voiles, le placement, c'est une chose. Mais maîtriser aussi comment chacun influence les autres, de manière subtile, c'est là que se trouve l'art du pilotage fin, non ? C'est comme un dialogue permanent pour maintenir cette harmonie en mouvement.
C'est une excellente synthèse, oui. Cette compréhension intime des liaisons, directe et indirecte, c'est souvent ça qui fait la différence. Il ne s'agit pas juste de chercher la vitesse à tout prix. Il s'agit d'anticiper comment le bateau va réagir, d'utiliser un effet indirect à son avantage, comme aider à loffer en bordant un peu plus une voile, ou de le contrer en douceur s'il n'est pas souhaité. C'est trouver cette fluidité, cette sensation de travailler avec le bateau et les éléments, plutôt que de lutter contre eux. C'est là qu'on trouve la performance, mais aussi la sécurité et, franchement, le plaisir de naviguer. Et cette idée de système interconnecté, où une action ici a des conséquences là-bas, parfois de façon contre-intuitive, ça dépasse largement la voile, en fait. C'est une leçon qu'on peut appliquer à plein d'autres domaines.
Voilà qui conclut notre plongée dans la mécanique subtile du voilier, une exploration nourrie par les informations assez denses de notre document source. Une sorte de danse précise entre les forces et les commandes, où chaque élément compte.
Et peut-être, pour prolonger un peu la réflexion, on pourrait se poser la question... Ces principes d'équilibre dynamique, de force interdépendante, cette distinction entre les effets directs, attendus, et les effets indirects, parfois cachés, en quoi est-ce qu'ils pourraient nous aider à mieux comprendre, et peut-être à mieux gérer, d'autres systèmes complexes, que ce soit en économie, en écologie, dans la gestion d'une équipe, d'un projet, ou même dans nos relations humaines, qui sait ? Où est-ce qu'ailleurs cette conscience aiguë des équilibres fragiles et des conséquences en cascade de nos actions est aussi cruciale? La voile, au fond, c'est peut-être juste un magnifique laboratoire pour penser le monde.